23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
Vous entrez maintenant dans la Poche Bleue. La formation de départ, the starting lineup, le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse.
Ford, construit avec fierté.
Salut Maxime, salut Guillaume.
Salut Mario!
Le party, s'est-tu rendu chez vous hier? Parce que c'était à peu près ça, étonnamment, au Centre Bell dans ce match contre les Flyers.
C'est beau ça, la vague, ça chante olé olé, un match en fin de saison, deux équipes qui sont pas en série, là, une qui a encore des chances, mais c'est le fun. T'sais, ça prouve encore une fois qu'on donne un bon spectacle, les gens sont contents. Tu regardes ça hier, les gens, pourquoi qu'ils ont du plaisir? C'est parce qu'ils voient le futur, ils pensent à Slavkovski, ils voient sa performance, et exceptionnel, puis on se dit, ben, écoute, il y a de l'espoir. Finalement, on a finalement un joueur qui est capable de le faire lever la foule au Centre Bell.
Guillaume, j'ai envie de te demander. Ben, vas-y d'abord, puis je te relance avec une question.
Le seul point négatif, Mario, c'est qu'il reste encore des matchs. J'aurais été parfait pour une fin de saison d'une équipe éliminée depuis quelques temps, un match final de 9-3, puis on remercie tout le monde. Mais ça a été vraiment un beau party là, pour les gens qui étaient présents au Centre Bell. Puis, comme Max dit, je pense qu'on réalise toute l'ampleur de ce qui s'en vient avec cette belle petite équipe-là.
L'espoir, tiens, je te relance, Guillaume, l'espoir, il tient à qui ou à quoi qui est tant d'espoir, puis je le constate comme vous, je challenge pas l'idée qu'il y en a, mais selon toi, il tient à quoi, l'espoir?
Ben, je pense qu'il tient à pas mal tout le monde, je te dirais, parce que la progression du duo de gardiens est exceptionnelle cette année. La progression de la défensive, ce qu'on regarde, ce qu'on a réussi à faire avec nos jeunes, mais aussi avec Hudson, avec Mayu qui est dans la Ligue américaine, qui a eu une belle saison. Puis quand on regarde aussi l'évolution des jeunes à l'attaque, le premier trio, la saison de Slavkovski, la saison de Suzuki, l'espoir de revoir un Kirby Doc en pleine forme qui peut venir pivoter le deuxième trio, puis bien sûr le leadership puis tout ce que le coaching staff Martin Saint-Louis amène. Fait que je pense qu'il y a de l'espoir dans tous les paliers de l'équipe en ce moment-là.
Max?
Pour moi, Mario, c'est parce que souvent tu regardes un jeune joueur puis tu te dis, oh wow, il a marqué 15 buts cette année, oh wow, il s'est amélioré, il est rendu 50 points. Mais c'est la façon qui accumule les points. Un gars comme Slavkovski en particulier, il joue comme un vétéran, là. Tu sais, je serais pas gêné de le mettre sur la glace avec une minute à jouer en série, là. C'est un gars qui se comporte de la bonne façon. C'est un gars qui est mature sur la patinoire. C'est un gars qui semble... Tu sais, travailler, c'est une chose, mais travailler avec le sourire parce que tu apprécies le faire, c'en est une autre. Puis ça semble inné dans son cas. T'sais, donc, pour moi, ce ne sera jamais un joueur que tu vas devoir lui crier après ou lui dire « Réveille-toi, force-toi ». Ça semble naturel, puis ça, c'est bon pour un premier choix total.
Quand on met la main sur un premier choix de grande qualité, je le compare pas là au phénomène, mais vous savez ce que je veux dire, que tu sais, bon, il y a la catégorie des Crosby, il n'a pas bien dans la même phrase, tu sais, des gars comme ça, peut-être McKinnon, McDavid, que tu sais qu'ils vont transformer l'équipe dans laquelle ils vont aller jouer. Jurai n'était pas précédé du même genre de propos parce que les échantillons étaient rares, on l'avait vu avec les Olympiques, puis même là, puis je pense que c'est une bonne affaire parce qu'il venait pas avec les pressions qui précède l'arrivée d'un Crosby, d'un McDavid ou d'un autre. Mais pensez-vous qu'il va transformer les prochaines années du Canadien? Moi, je pense que oui, mais je veux vous entendre, t'sais, Max.
100%,
comme
100%.
Un de ces gars-là, mais t'sais, toute proportion gardée, mais quand même vers le haut.
Oui, mais 100% qui change la donne. Puis ça prouve encore une fois que si tu repêches bien, puis si tu repêches haut quand même, on s'entend qu'un top 5, c'est pas un choix de... un 20e choix de première ronde, mais un top 5, puis tu fais le bon choix, il y a un impact, c'est immédiat, ça se fait ressentir immédiatement, puis c'est pas juste pour l'équipe puis pour le joueur, mais ça vient tout balancer. Tu sais, Suzuki, là, il a fait tout un travail cette année, puis oui, il mérite à 100%. Mais est-ce qu'il aurait été capable de faire ça sans Slavkovski, puis vice-versa, là, mais tu sais, ça prend des joueurs comme ça pour venir compléter ton talent. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des joueurs à Montréal comme ça.
Vraiment.
Ouais, je pense exactement comme vous autres. Je pense que c'est un joueur qui va changer le visage de l'équipe puis emmener cette équipe-là ailleurs. Bien entouré, avec une belle profondeur. Je pense que le Canadien va être surprenant dans les prochaines années. Mais un gars comme Slavkovski, c'est sûr que toute son approche, toute son
le bagage qu'il est en train de gagner pour moi est exceptionnel. Puis je pense qu'il est en train de prouver tout le monde. Tu sais, au-delà des statistiques, au-delà de tout, là, il a 19 ans, le kid, puis il fait des affaires exceptionnelles 20. Contre les meilleurs trios adverses. Puis c'est assez incroyable ce qu'on voit en ce moment. Là.
Moi, je suis vraiment excité. Puis c'était la première grosse ovation de sa carrière hier. Là, c'était fort dans le Centre Bell.
Mais, ça vient, mais ça.
Je pense que oui, mais ça nous ramène à la personnalité de quelqu'un. Tu sais, Suzuki, il y a beaucoup de gens, puis c'est les gens, quand on se ramasse avec des amis en dehors du travail, les gens nous posent des questions sur tel ou tel joueur. Il y en a beaucoup qui aimeraient, comme Martin Saint-Louis, qui soit plus démonstratif, mais c'est de Suzuki je voulais vous parler. Suzuki est peu démonstratif. Mais puis je suis sûr que vous avez connu des gars comme ça. C'est pas parce qu'il est pas démonstratif que le feu brûle pas autant en lui. Et en ce sens, je trouve que lui et Juraj Slafkovský sont des compléments vraiment parfaits et l'expriment de façon différente. Mais Slafkovský a vraiment le tempérament comme sur mesure pour jouer ici, Max.
Ouais, mais c'est important, Mario, parce que tu sais une saison c'est long, puis il y a beaucoup d'émotions, puis il y a des journées que ça va pas bien dans le vestiaire, puis il y a des journées que les gars sont trop excités pour rien. C'est important d'avoir un gars calme puis stable comme ça. Tu sais, un, ça, comme j'ai dit, ça calme les joueurs. Deux, tu sais, on peut penser à un gars comme Patrice Bergeron. Il était comme ça en début de carrière aussi, là, quand il s'exprimait devant les caméras, c'était toujours calme, c'était toujours calculé. Puis après, tu sais, dans les 5 dernières années, Patrice Bergeron s'est dégêné un peu, puis il était prêt à s'ouvrir puis discuter un peu plus. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas, oui. Moi, je ressentais ça. C'est tellement important d'être calme le plus longtemps que tu peux l'être comme capitaine, Mario, parce qu'à un moment donné, ça va aller mal. Puis tu vas avoir besoin de parler une fois. Pis ça va faire un impact majeur dans le vestiaire. Si tu parles à tous les jours, puis c'est toujours « come on les gars », puis « let's go, faut faire ça », puis « réveillez-vous », puis il n'y a plus d'impact après une année ou deux. T'sais? Mais lui, je suis sûr qu'un jour, ça va arriver, on va avoir une mauvaise séquence, puis il va dire un affaire, puis tout va changer.
Ça va cogner, oui, il va avoir de l'impact.
Tu sais, Mario, quand tu regardes les grands leaders des dernières années, c'est les gars comme Suzuki. Tu regardes Crosby, Jonathan Tate, Zenzé Kopitar, Patrice Bergeron, Zdeno Chara, tu peux, on peut les nommer, là, tous les gars qui ont eu du succès, puis oui, c'est certain, il y en a toujours qui viennent changer la règle, mais je veux dire, la majeure partie de ces gars-là ont un peu ce tempérament-là de gars calmes, bien entourés avec des gars qui vont peut-être être plus rah-rah-rah, mais qu'eux autres, quand ils lèvent le doigt pour dire quelque chose, là, ça a l'impact qu'on a besoin d'avoir, tu sais, fait que je pense que c'est vraiment, encore une fois, d'être capable de cadrer tout ça ensemble, mais la personnalité d'un gars comme Suzuki, pour moi, vient parfaitement avec tous les plus grands qu'on a vus. Là.
Qu'il s'agisse d'un joueur ou du groupe, là, du collectif, on arrive en fin de saison, puis tu sais, on ira bien de bilan, mais comme les matchs veulent plus dire grand-chose, et qu'est-ce qui... Y a-t-il un élément ou un joueur, y a-t-il quoi qui vous a surpris cette année?
Oh, surpris, c'est difficile de passer à côté de Slafkovský, son développement, puis tout ça, mais je pense que c'est le timing de tout ça. Tu sais, c'est tous les jeunes joueurs, ont pris un pas dans la bonne direction. Primo a pris un pas dans la bonne direction. Slafkovský a pris un pas dans la bonne direction. Newhook a pris un grand pas aussi. Suzuki comme leader. Caulfield, tu sais, on parle beaucoup de ses buts, mais c'est sa meilleure saison en point, si je me trompe pas, tu sais, puis il joue beaucoup mieux défensivement, tu sais, d'être capable de tricher un peu moins, puis de se sacrifier de l'autre côté, puis de performer quand même offensivement, lui aussi a pris un bon pas dans la bonne direction.
Moi, je te dirais, Mario, moi, je vais aller vraiment avec les gardiens. Je trouve vraiment qu'on a pris un beau pas. On s'est battu toute la saison avec Jake Allen qui était là, le trio. Ça levait pas comme on voulait. On voyait Montembeau qui semblait vouloir prendre la pole. Puis là, je trouve que depuis qu'on a fait la transaction, on est capable de se dire, on est capable de se poser la question à dire, si on veut gagner une coupe cette année, est-ce que ça peut être Montembeau notre gardien? Puis avant, on n'aurait jamais pensé ça. On disait, Montembeau, c'est un bon deuxième quand on va devoir trouver un autre premier pour gagner la coupe. Puis là, le duo qu'on a commence à surprendre, puis commence à être le fun à regarder, puis commence à gagner des matchs. Puis je pense que ça va juste aller encore en grandissant dans les prochaines années. Fait que je trouve que moi, la plus belle surprise, c'est de se dire, tabarouette, on a peut-être un gardien numéro un.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous a déçu? Et vous n'avez pas le droit de dire le nom de Josh Anderson.
Ouais, il y avait des plats qui m'a déçu, moi.
Non, mais parce que, écoute, parce qu'on en a parlé toute l'année. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter sur lui. C'est pour ça que j'ai envie de l'exclure. Mais si vous y tenez, allez-y avec lui.
Ah, ben, moi, il y a quelqu'un qui m'a déçu, Mario. C'est la personne qui m'a empêché de parler de Josh Anderson.
Bon, mais lâche-toi lousse, Mac. Lâche-toi lousse.
C'est difficile pour moi de trouver une grande déception. T'sais, je trouve que tout le monde, Armia, c'est une déception pour moi jusqu'à la mi-saison. Ben, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Je regarde l'alignement. Il n'y a pas personne qui me déçoit. Je peux-tu tourner ça au positif?
Ben oui.
Y aller à, je pense qu'il y a un vétéran qui a mélangé les cartes. En tout cas, pour moi, c'est Matheson. Tu sais, on parle toujours de la défensive du Canadien, puis c'est toujours Hudson Rinebacker, puis Mayhew va jouer avec lui, puis on sort toujours Savard puis Matheson. Mais Matheson, là, il est dans le top 10 des marqueurs de défenseurs dans la Ligue nationale de hockey. Il a plus de points que Riley puis Darling. Il a 60 points. Tu sais, c'est gros, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un défenseur comme ça. Il est moins 26, j'en conviens. Mais moi, je pense que ça se règle. C'est un gars qui patine bien, c'est un gars qui est passionné. On parle toujours de Québécois à Montréal. On a un Québécois, puis il performe, puis il a des points. Gardons-le.
Ben oui, et donc, mais il y a quand même une déception du fait que les gens ne le reconnaissent peut-être pas assez, Maxime?
Ça, exactement. Tu viens de mettre le doigt dessus, parce que ce qu'il est en train d'accomplir, c'est pas rien. Là. Puis n'oublions pas qu'en ce moment, il est dans un rôle où peut-être qu'il est sur le premier avantage numérique, il est sa première paire de défenseurs qui affronte les gros trios de l'autre côté. Imagine-le, peut-être sur une deuxième paire, je pense qu'il va être encore capable de performer encore plus.
Ouais, sinon, moi de mon côté, Mario, c'est quand même difficile de nommer. Je suis un peu d'accord avec Max là, qu'on a eu une belle saison dans ce qu'on s'attendait. Peut-être moi je te dirais, ils ont pas été mauvais, mais je trouve pas qu'ils ont fait un impact pour dire ah, ces gars-là, c'est mettons un Jordan Harris ou un Justin Barron, des joueurs comme ça. On dirait que je cherche encore ils ont eu des beaux moments, chacun leur moment, puis ça a été plus difficile à certaines passes. Fait que j'aurais aimé ça avoir vraiment une étampe de okay, lui, c'est sûr qu'on le sait. Un peu comme Max vient de dire de Matheson à un autre niveau, vu que c'est des jeunes, mais je veux dire, de pousser un petit peu plus pour être vraiment dans la brigade défensive.
Est-ce qu'il y a déjà un entraîneur qui vous a obligé à rester habillé après une défaite assez gênante pour répondre aux journalistes, les gars?
Je m'en rappelle pas. Mais c'est sûr et certain qu'on a déjà eu à répondre, toute l'équipe, aux journalistes, mais peut-être pas de rester habillé puis tout ça, mais. Moi, j'aime ça. J'aime ça parce que, tu sais, on va prendre l'exemple à Montréal parce que c'est simple, on le voit tout le temps. C'est toujours les mêmes qui sont pris pour répondre. Tu sais, c'est Suzuki parce qu'il est capitaine, puis c'est Slavkovski parce que c'est le jeune nouveau qui est très, très bon. Des fois, c'est bon de passer la parole aux autres un peu. Expliquez-vous, vous autres aussi.
Ben. Ouais, moi aussi, je me souviens pas d'un moment où c'est arrivé parce que, tu sais, honnêtement, Mario, il n'y a pas beaucoup de marché dans la Ligue qui a plus que trois médias. Tu sais, peut-être les équipes canadiennes, mais mettons, moi, avec le Wild, je vais te dire, on avait Michael Russo, puis c'est tout, là. Il n'y avait pas vraiment de télé, il n'y avait rien. Fait que quand même, le coach libre, c'est tout habillé, on va se parler entre nous autres.
Êtes-vous surpris que Torch ait exigé ça? Parce que je pense que c'était une commande, là, hier, après la rencontre, ouais. Alors qu'eux autres, ils frappent vraiment le fond du baril, là.
Ouais, mais il cherchait une autre façon d'attirer l'attention, Mario, parce qu'il réalise pas, mais c'est lui qui l'a ruiné la saison des Flyers, puis jamais personne qui va l'assumer, c'est qu'il a pris spotlight, il voulait de l'attention, il a niaisé tout le monde, que ce soit un nouveau gardien en riant de sa performance, après il revient, puis il dit « je m'excuse, j'aurais pas dû dire ça », après c'est Sean Couturier, il y a toujours quelque chose. Tu sais, à un moment donné, là, t'es un entraîneur d'expérience, ton équipe, on s'entend qu'à performer au-dessus des attentes à un autre niveau. Peut-être là, une petite tape dans le dos avant une série, dire on lâche pas ce qu'on a accompli, c'est merveilleux, au lieu de je vais les amener, je vais les pousser encore plus loin. Ben ça a tout détruit.
Es-tu d'accord avec ça, Guillaume?
Ben 100%, moi, puis c'est plate, là. J'aime beaucoup Daniel Brière, puis il va avoir une décision à prendre, là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui voudront plus jouer pour John Tortorella. Parce que au-delà d'asseoir, tu sais, asseoir Cam Atkinson, asseoir des joueurs, tu sais, à un certain moment donné. Oui, c'est correct, t'es coach, puis des fois, tu prends des décisions, puis ça peut revenir. Moi, ce que j'aime pas, c'est sa façon d'être dans les médias. T'sais? Il met Sean Couturier dans les estrades en laissant planer toutes les raisons. Ça peut-tu être c'est ce qu'il a fait dans, il est-tu arrivé en retard, c'est-tu son jeu, c'est-tu ça, je veux pas en parler, il est pas là, il était.
Puis tu me permets, Guillaume, la grande hypocrisie de son approche, là, c'est que il fait passer les médias pour des pas bons en disant, non, posez-moi pas de questions là-dessus, je vous le dirai pas, c'est entre moi puis lui, comme s'ils venaient d'aller prendre un café ensemble pis qu'ils allaient super ensemble le soir. Alors que quand tu fais ça, ben, c'est comme, là, c'est là, le monde, ils veulent savoir pourquoi. Tu l'ouvres la canne de verre, là, t'en refermes pas, là.
Ah non, et moi, Mario, là. Ça me fâche énormément. La réalité, c'est que c'est du sport, puis tout le monde gagne sa vie, là, par exemple, avec ça. Là. Puis t'as le journaliste qui a pris son auto, qui est allé à l'aréna, puis lui, le coach, fait 5 millions, mais il répondra pas aux questions. T'sais, ça, je trouve, là, c'est un autre niveau de manque de respect. Ça devrait être des amendes de la part de la Ligue nationale de hockey. Tu choisis pas à qui tu parles, qu'est-ce que tu dis. Tu parles de la game, c'est ta responsabilité.
Tu parlais de Daniel Brière. Oui, vas-y, Guillaume.
Ça va dans tout, Mario. John Tortorella, là, il peut pas parler aux médias. Il vient un gars dans les estrades, il n'y a pas de raison, il n'est pas obligé de donner de réponse. Il a le droit de rire des joueurs. Il a le droit de
il
rire.
Il n'a pas d'avis derrière le banc.
Que les gars, c'est ça, que les gars n'ont pas de fierté. Puis lui, parce qu'il a froid en arrière du banc, il a le droit d'être dans un petit jacket. Quand tous les entraîneurs, c'est chemise, cravate, puis c'est un décorum de la Ligue nationale au complet. Il y a 31 clubs depuis 100 ans qui s'habillent de la même façon. Mais lui, non. Lui, non, c'est pas de même, ça marche. Tu sais, c'est. À un moment donné, il faut tourner la page chez ces entraîneurs-là. Puis je suis d'accord qu'il a fait une super de belle job à Philadelphie. Il a emmené une certaine culture, mais il est resté encore une fois l'année de trop qui a fait en sorte qu'il est en train de la briser la culture qu'il a bâtie là-bas.
Mais ce qui m'intrigue, là, c'est que, et j'en ai parlé hier après le match avec Danny et Martin, c'est que quand il a été, quand on l'a reconfirmé, là, qu'il restait là comme entraîneur, Keith Jones arrive comme président, Daniel est engagé comme DG, mais Jones présente Torch comme quasiment son bras droit avec Daniel, tu sais. Vous vous souvenez de ça?
Ouais.
Fait que, tu sais, puis Torch, quand il essayait de racheter sa sortie l'autre soir après le match contre les Islanders, là, il parlait comme si c'était le président de l'organisation. C'était embarrassant pour l'uniforme des Flyers. Comme si c'est lui qui va... Fait que j'ai hâte de voir si le regard de Jones va changer. Parce que, tu sais, Daniel peut être coincé un peu entre les deux, mais à un moment donné, la réalité va rattraper le président aussi, là.
Ah, ça va rattraper tout le monde, puis il faut que ça le fasse. Puis en passant par John... Honnêtement, pour moi, il faut que John Tortorella quitte l'année prochaine. C'est plate, là. Il a fait une belle carrière, il a gagné la Coupe Stanley, bravo. Puis si quelqu'un veut le prendre dans un poste de direction, tant mieux. Je pense que c'est un gars qui a une bonne tête de hockey, mais il reste que pour le reste, côté gestion, en 2024, d'être humain et de jeune, je pense plus qu'on est à la bonne place. Là. Il y a des séquences de lui qui crie après les gars. On veut plus voir ça, non?
La question, d'ailleurs, de la tribune téléphonique, ce soir, un petit peu plus tard, pour les auditeurs et auditrices, c'est quel est, selon vous, tout sport confondu, le profil de l'entraîneur idéal en 2024? On est avec Maxime et Guillaume à la Poche Bleue Radio, en direct, et on revient après ces quelques messages.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
Avec Maxime et Guillaume, question d'Alain, un auditeur qui m'écrit par courriel. Puis la question a été soulevée hier en tribune après la rencontre également. Fait que je vous la lance. Je pense pas pour étirer le sujet, mais ça fait réagir les gens. Pensez-vous que c'est possible, la question là, telle que formulée par Alain, notre auditeur, est-ce possible qu'hier, les joueurs des Flyers ont volontairement décidé de ne pas fournir l'effort?
Volontairement, non. Moi, je pense, tu sais, Mario, quand on dit souvent, là, les gars perdent, le coach a perdu son vestiaire.
Mm-hmm.
Que j'ai un appel en même temps. Bon. Quand le coach dit il a perdu son vestiaire, c'est sûr. Moi, je pense plus que on joue à notre façon. Tu sais, quand un coach perd, parce que les gars, ils ont tous des contrats à gagner. Ils ont tous quelque chose à prouver. Puis on se retrouve que on a quelque chose à faire comme joueur. Puis après ça, les gars, ils peuvent pas dire on lâche l'entraîneur ou non. Fait qu'on se retrouve qu'on travaille pour. Puis excusez là, mais Max, prends le relais, là,
j'ai une équipe, je comprends pas là.
c'est une équipe qui joue comme si on était tanné. Tu sais, comme Maxime, Mario, n'importe quel projet que tu entreprends dans ta vie, si quand tu arrives à la fin, des fois, c'est comme, OK, là, on peut-tu passer à autre chose? Puis on dirait qu'on joue avec un certain manque de passion puis une divergence d'opinion aussi. Tu sais, on s'entend que si à chaque fois que tu rentres dans le vestiaire, tu vois pas la game de la même façon que ton entraîneur, mais ça devient frustrant. Puis je trouve qu'on joue peut-être comme une équipe frustrée. Mais n'oublions pas, par contre, que c'est pas une grosse équipe de hockey sur papier, là. Tu sais, on se fie beaucoup au classement, puis ils ont connu un bon départ, un bon début de saison, mais... Moi, je considère que le Canadien est meilleur que cette équipe-là.
Ben, Daniel Brière n'a pas dérogé de son plan quand il a liquidé des joueurs, dont Sean Walker, la date limite des transactions. Ça veut dire qu'au-delà du succès de la saison en cours, il était prêt à risquer que ça glisse, tu sais, espérant que ça glisse pas, mais il était prêt à vivre avec ça parce qu'il voit plus loin que l'année en cours, là.
Ben, 100%. Puis, tu sais, si on y pense, dans une reconstruction, tu veux toujours faire les séries, mais eux autres aussi sont en reconstruction. Puis là, les jeunes joueurs, ils ont été dans une position pour se battre toute l'année pour les séries. Ça, c'est de l'expérience. C'est très bon pour les jeunes joueurs dans l'organisation. Puis, ils ont fait les bonnes choses, je trouve, du côté de Philadelphie, dans ce département-là.
Seriez-vous, les gars, déçus si les Canadiens ou personne de l'organisation ne déclarait d'ici le début de la saison prochaine que l'objectif avoué de toute l'organisation, c'est de faire les séries l'an prochain? Il n'y a pas de garantie qui vient avec ça, mais de le dire. Seriez-vous déçus si personne n'assumait ou ne voulait faire ce pas-là?
Je peux déjà te dire que l'an prochain, Mario, au tournoi de golf, ils vont dire que cette année, le but, c'est d'être en course pour peut-être rentrer en série. Je pense pas qu'ils vont dire cette année on va faire les séries.
OK, OK.
J'étais à la même place, Mario. Je pense pas qu'on essaye tout le temps de protéger nos arrières pour qu'on contrôle le message. Puis Martin Saint-Louis est très bon là-dedans. Fait qu'on se retrouve qu'on va aller à la même place. On va étirer plus loin qu'on est allé. T'sais, cette année, on parle pas du mot série. L'an prochain, on va commencer à en parler. L'année d'après, on va en parler pour de vrai, mais je pense pas qu'on est rendu là encore.
Ben moi, j'aime mieux ça, Mario, que lorsque à chaque année, c'est la même chose autour de la golf. Ah, on veut gagner la Coupe Stanley cette année. Mais on finit huitième, puis on fait pas les séries, puis là, on fait les séries, on se fait sortir en première ronde. Puis là, on pourrait juste le dire aussi quand c'est vrai, là, à un moment donné. Hein.
Ben, écoute, non, mais j'aime le fait que, de la manière que vous présentez ça, je pense que c'est effectivement ce qui va être la ligne du parti ou le discours officiel. Êtes-vous surpris que l'ambiance soit aussi enthousiaste la plupart du temps ou tout le temps à travers des années où le Canadien est éliminé assez tôt en saison et qu'il n'y a pas de séries éliminatoires dans une ville où on s'est fait rabâcher pendant des années que c'était impossible de faire ce qu'on fait là dans un marché comme Montréal? Êtes-vous étonné de ça?
Ben, je pense que ça démontre la qualité des partisans du Canadien. Ça démontre aussi la confiance qu'on a envers le groupe qui a été mis en place. Moi, c'est surtout ça. T'sais, on a vendu le plan Bergevin. On a refait un autre 5 ans avec Bergevin. On a rentré Kent Hughes. Puis, quand on a rentré Kent Hughes, pour moi, c'est la première fois vraiment qu'on a senti un DG qui avait vraiment carte blanche puis qui avait vraiment un plan de match autre puis qu'on allait lui donner le temps de le faire, de repartir à zéro. Puis, souvent, on lui a posé la question puis... Non, on déroge pas du plan, puis on reste là. Puis je pense que l'honnêteté puis la franchise qu'on a eue envers les partisans, parce qu'on n'a jamais menti à vouloir faire rêver ou rayonner quelque chose qui n'existe pas. Je pense que les Kent Hughes et Martin Saint-Louis ont été francs avec le public. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on voit qu'ils ont un plan, puis qu'ils en dérogent pas, puis qu'ils croient en ce qu'ils sont en train de bâtir.
Corrigez-moi si je suis dans le champ, là, mais ça fait depuis Kovalev qu'on n'a pas eu une équipe spectaculaire à l'attaque, je trouve. Puis c'est peut-être ça qui est plaisant pour les partisans. Tu sais, quand t'achètes ton billet pour aller au Centre Bell, je pense que la première chose que tu veux voir, c'est un spectacle. Puis qu'on perde ou qu'on gagne cette année, on a des attaquants qui donnent un spectacle. Puis je pense que ça, pour moi, en tout cas personnellement, ça vaut le prix d'entrée.
Et la question de la tribune, je vous la pose, les gars, en terminant. Qui est, selon vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui incarne pour vous, actuellement 2024, tout sport confondu, le profil, l'image de l'entraîneur? Parfait, ça existe probablement pas, mais idéal. Puis encore là, tu sais, tout une date de péremption, là, mais donc, l'entraîneur idéal en 2024, selon vous?
Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors dans l'NBA.
Ben, il est sur la photo, une des photos que j'ai mises dans ma publication sur Facebook. Oui, d'ailleurs, dans les, c'était pas des choix de réponse, mais c'est un gars pour qui j'ai énormément de respect dans sa relation avec les joueurs. C'est un choix intéressant. C'est le fun que tu sortes du hockey pour nous identifier un coach. Guillaume, en as-tu un en tête?
Ben, je connais, honnêtement, Mario, Max, il est fan de sport autre plus que moi. Moi, je connais pas un coach dans d'autres sports, fait que je peux pas en sortir. J'écoute d'autres sports, mais il y a pas de bon coach dans le golf, fait que...
fait que c'est ta blonde, le coach idéal, non?
Ouais, c'est ça. J'irai pas là non plus.
mais dans le hockey, qui est, selon toi, le gars qui est le plus proche de l'image ou pour qui t'aimerais jouer dans le hockey d'aujourd'hui?
Ben, je pense que, tu sais, on se trompe pas avec un gars comme Martin Saint-Louis. Moi, j'adore... Tu sais, mais c'est dur, en même temps, d'évaluer ça face à ce que quelqu'un projette dans les médias. Comment je dis, comment il est dans le vestiaire, comment il est devant le public, je pense qu'il y a, il y en a certains qui ont une double identité. Moi, c'est sûr qu'un entraîneur que j'aime beaucoup devant les médias, mais les deux entraîneurs de la Floride, John Cooper, Paul Maurice, je trouve vraiment qu'ils ont des propos intéressants. C'est sûr, Martin Saint-Louis, je l'adore aussi. Fait que ça serait dans une lignée, puis là, je nomme trois entraîneurs au type complètement différent, mais je trouve que c'est trois personnes, du moins devant les médias, que je trouve qui sont intéressantes et qui ont une arrière-pensée avant de dire quelque chose aussi.
Ben, bien intéressant. Merci de t'être mouillé après quelques questions. J'ai gratté.
Mario.
Je l'ai travaillé au corps, Max. Je l'ai travaillé, je t'ai dit. Non, mais je vous t'inquiète. Merci, les gars. Un gros merci. Toujours le fun. Puis bonne fin de soirée. Bye-bye. Salut, Guillaume. Salut, Maxime. Au retour, Antoine Roussel. On va le cuisiner, lui aussi, sur quelques questions que j'ai au menu pour lui.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Salut Mario, comment vas-tu?
Ça va très très bien. Hey, tu te mets dans la peau des joueurs des Coyotes de l'Arizona, puis tu l'as vécu jouer pour les Coyotes. Ça doit pas être évident pareil. Des rumeurs en mi-saison, encore des rumeurs, puis je pense qu'il y a un fond de vérité aux rumeurs. Là, je pense qu'ils s'en vont à Salt Lake City, mais ça doit pas être évident de vivre ça. Puis même pour André, notre ami André Tournier, de coacher un club à travers tout ça.
Ben c'est officiel parce que quand ça change de main, ben généralement il y a beaucoup de choses qui changent. Ça change la direction, ça change de coach. Une nouvelle organisation veut toujours changer l'image de l'équipe, changer des choses. Et souvent, ben c'est le couperet qui passe pour certaines personnes. Donc c'est sûr que ça amène son lot d'incertitudes et c'est vraiment dommageable. Donc, quand on voit des journalistes émérites, un petit peu comme Elliott Freeman, qui est, selon moi, le journaliste le plus connecté de la Ligue, qui sait à peu près tout ce qui se passe avant que ça se passe, et il va d'un article, comme on l'a vu en fin d'après-midi, disant qu'il y avait beaucoup de sources qui pointait qu'il y aurait des annonces peut-être, puis il a mitigé ses propos parce que il y a beaucoup de choses qui doivent arriver d'ici là pour que ça se fasse, mais il disait que tout pointait vers ça. Puis je pensais que c'était là un petit peu la dernière chance, le projet, puis le fait que l'équipe puissent acheter le territoire, la terre qu'ils envisagent d'acheter aux enchères au mois de juin. Je pensais que si ça se faisait, ben les Coyotes resteraient en Arizona. Mais tout porte à croire que la Ligue nationale travaille un plan de contingence assez rapide. Et quand on a une équipe qui est en demande et puis on a une situation où on est prêt à les recevoir, ben c'est sûr que la Ligue nationale a pas le choix d'écouter, là.
Salt Lake City dans la Ligue nationale, donc vraisemblablement, là, je le dis au conditionnel, à partir de la saison prochaine. C'est un marché qui est... Apparemment que... j'en parlais avec Martin McGuire plus tôt, puis on n'aura pas le temps d'en parler ce soir avec Martin, on va parler plus du match de demain, mais on y reviendra. Mais Salt Lake City a accueilli les Jeux olympiques de 2002. J'ai hâte de voir comment la Ligue... Je pense que la Ligue va bien réagir au fait que ça semble un marché plus prometteur, où il y a moins de écoute, ça n'a pas de bon sens comment ça tatawine depuis longtemps. Hey, on couvrait les assemblées excluant la personne qui parle, les assemblées du conseil municipal de Glendale, Phoenix, depuis je sais pas comment d'années. On passe à un autre appel, là.
Ben, c'est sûr qu'on espérait que cette équipe-là revienne dans le giron québécois. Mais c'est peut-être pour ça qu'on suivait ce sujet-là vraiment avec assiduité.
C'est
mais
sûr.
Pour moi, puis tantôt tu m'as posé la question, puis j'y ai pas vraiment répondu. Comment les joueurs sentent? Ben, si je suis un père de famille qui joue pour les Coyotes d'Arizona, ben c'est ça que je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va organiser la saison prochaine? Les enfants, l'école. C'est sûr qu'on vit dans un milieu où on est appelé à changer rapidement, puis ton facteur d'adaptation est meilleur que la moyenne générale du monde à la maison, mais au final, c'est beaucoup d'incertitudes et faut apprendre à composer avec ça. Donc, c'est sûr que quand on attend plus longtemps, ben c'est difficile pour une organisation, pour des joueurs de se revirer de bord rapidement, parce que il y en a qui ont des maisons, ils ont des affaires à gérer aussi, là, en dehors. Vous allez me dire, ils sont pas petits, mais ça amène son lot d'incertitudes et pour un joueur, ben c'est difficile à gérer des fois parce que ça peut affecter tes performances, ça peut affecter ton niveau de préparation pour la saison prochaine et ça a l'air d'être pas grand chose, mais c'est plus gros qu'on pense.
T'as regardé, je pense, avec autant d'intérêt que moi. C'est toujours le fun de lire ça, le sondage annuel de l'Association des joueurs sur on interview le 639 joueurs. D'ailleurs, RDS l'a partagé sur son site, peut-être même TVA, j'ai pas vu, mais donc avec le résumé des questions. Est-ce que tu penses que quand Sidney Crosby est identifié par une majorité, par presque 39% des joueurs de la Ligue comme le joueur le plus complet de la Ligue, tu penses-tu que c'est un portrait de ce que Crosby est toujours en temps réel ou c'est du respect?
Je pense qu'il y a un peu de respect là-dedans, mais on voit encore ce que Sidney Crosby est encore capable de faire. C'est un joueur qui a encore une saison d'un point par match, qui est encore dominant quand il est sur la glace, il a su s'adapter. Puis en fait, le point clé là-dedans, c'est que c'est un joueur qui est toujours à la recherche de la perfection et de s'améliorer. Puis c'est quand tu combines ça avec le talent qu'il a, ben c'est ça qui fait en sorte qu'il est encore aussi dominant. Souvent, ben il va y avoir des joueurs qui sont très talentueux, mais leur éthique de travail n'est pas au sommet. Ben un gars comme Crosby, ben son éthique de travail, elle est élite. C'est difficile de trouver quelqu'un qui travaille plus fort que lui, puis ça c'est documenté depuis des décennies quasiment, de la façon dont il travaille, puis ça c'est le cas des meilleurs joueurs de la Ligue. C'est des passionnés puis des gars que leur éthique est impeccable.
34,4% des patineurs de la Ligue interrogés pensent que le Centre Bell offre la meilleure qualité de glace. Ils avaient perdu la pole position pendant quelques années. Ils n'ont jamais été bien loin, là, mais c'est-tu remarquable la différence entre les qualités de glace de toutes les glaces sur lesquelles tu as joué dans la Ligue, Antoine?
Ben, c'est sûr que la qualité de la glace au Centre Bell est phénoménale. C'est bien géré. En fait, il y a des facteurs qui font en sorte que au Québec, ben bien entendu, c'est plus facile aussi d'avoir une belle glace, mais les gens sont tellement compétents qui l'organisent, puis qui font en sorte que elle soit lisse, elle soit belle. Aussi au Centre Bell, il y a assez rare que lors d'un match, en avant le matin ou il y a deux shows dans la même journée. Il y a des places comme à New York ou à Los Angeles, les Lakers peuvent jouer en après-midi, puis après ça, t'as les Kings qui jouent le soir. Ouais, au Centre Bell, t'as pas cette situation-là. Donc, ça affecte aussi vraiment là, les conditions de la glace. Il y a aussi le fait que quand on joue dans des endroits vraiment plus chauds, par exemple en Arizona, ben des fois, c'est difficile pour la mécanique de l'aréna de fonctionner. Donc, c'est ça qui explique un peu tout ça, mais on pense que les arénas sont bien organisées, mais des fois, les conditions extérieures font en sorte que ça devient difficile de contrôler la qualité de la glace.
Je te ramène sur le match d'hier. Qu'est-ce que tu en as pensé avec, entre autres, les trois buts de Slavkovski, mais l'explosion offensive? Des matchs qui arrivent une fois de temps en temps, là, hein?
Ça fait du bien. Pour de vrai, hier, souvent quand je vois un match comme ça, c'est ce que je regarde. Je regarde qui n'a pas eu de points. Puis ça, c'est toujours un peu difficile. Il y en a eu 4 hier qui n'ont pas eu de points. Puis, tu sais, je me dis, tu sais, quand tu vois 9-3, t'es quand même, t'as le goût de participer au festival offensif. Puis quand tu participes pas, c'est toujours un petit peu plus difficile. Mais non, j'ai adoré le match. Pour revenir au match, j'ai adoré la performance de Slavkovski. J'ai trouvé que Gallagher avait l'air de patiner. Tu sais, on pense souvent qu'il ralentit, mais j'ai trouvé cette année, puis surtout en deuxième moitié, que son coup de patin avait été bon. Puis il était encore présent, puis son ardeur au travail était là. Harris aussi, des beaux jeux, des belles passes. Peut-être que en fait, des fois, Harris, on pense que peut-être il va être laissé pour compte. On va penser.
On le sous-évalue.
J'ai l'impression des fois qu'on le sous-évalue, puis lui aussi a une marge de progression. Je pense pas qu'il a atteint son plein potentiel lui non plus, mais. C'est ça qui est le fun avec le Canadien, c'est qu'il y a plusieurs jeunes joueurs. On parle beaucoup de Slafkovský, puis toi et moi, on en a parlé vraiment en long, en large et en travers. Donc, on n'a pas besoin de revenir sur son dossier qui est incroyable. Mais j'aime ça regarder les autres aussi, comme Harris qui a été bon. Puis ça m'a ouvert les yeux hier avec sa performance aussi. Il faut peut-être pas mettre une crosse sur lui trop rapidement.
Question d'Alex qui intervient, qui dit avoir vu la question tout à fait légitime sur les médias sociaux en réaction à notre discussion sur les Coyotes. Si tu étais toujours un joueur des Coyotes et qu'il revenait en Arizona la saison prochaine, demanderais-tu une transaction?
Non. je demanderais pas nécessairement une transaction parce que ils vont avoir une bonne équipe. Cette équipe-là s'en vient quand même. Là, il y a des jeunes joueurs avec dominants. S'il fallait que cette équipe-là soit déménagée, écoute, le propriétaire qui va accueillir cette équipe-là va regorger de talents, ça va regorger de choix au repêchage. C'est tellement à tel point que ça va être difficile à gérer l'afflux de talents qui va arriver. Donc pour moi, non, je voudrais, si je peux encore avoir une place sur cette équipe-là, j'aimerais ça faire partie du train qui va vers l'avant, parce que les Logan Cooley, les Gunter, les Macchieri, ces gars-là vont évoluer aussi, puis ils vont devenir de meilleur en meilleur. Donc c'est pas une organisation que je voudrais quitter trop rapidement.
La question de la tribune, un petit peu plus tard, Antoine, je te la pose comme je l'ai fait avec Antoine et avec Maxime et Guillaume, c'est-à-dire qui incarne pour toi l'image de l'entraîneur idéal ou presque parfait en 2024? Tout sport confondu.
Tout sport confondu. J'ai envie de te dire, je repense selon moi, le meilleur entraîneur que moi j'ai eu, puis ce coach-là, je l'ai eu. Il a coaché dans la Ligue nationale, il a coaché l'équipe Canada Junior, il a eu du succès, il a eu moins de succès dans la Ligue nationale, il est moins resté longtemps, mais pour moi, c'était Willy Desjardins. Et pourquoi? Parce que Willy Desjardins, pour moi, il incarnait le respect. C'était quelqu'un de très calme, qui était capable d'avoir des discussions difficiles des fois, qui était capable de justement te dire un petit peu tes vérités, mais aussi toujours chercher un point d'amélioration. Puis te donner des pistes de solutions pour que tu t'améliores. Et ça, il le faisait pour chaque joueur dans l'équipe. Et c'est pour ça que je l'ai adoré, parce que un peu comme Martin Saint-Louis a l'air d'être un coach qui prône et qui croit au développement. Et même quand t'es rendu dans la Ligue nationale. Et ça, pour moi, c'est tellement important. C'est un vecteur qui fait en sorte que tu veux jamais abandonner et t'adores ton coach dans ce temps-là. Et ça fait que ton expérience est meilleure. Et puis tu performes généralement mieux aussi. Donc pour moi, le coach ressemble à ça. Est-ce que dans la Ligue nationale, en ce moment, il y en a? Probablement. On les connaît pas tous. J'espère qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais pour moi, c'était Willy Desjardins le meilleur.
Ben, un bon mot pour Willy, qui a coaché dans la Ligue de l'Ouest ces dernières années à Medicine Hat, et était, que je sache, à moins que la feuille que je consulte du HockeyDB ne soit pas à jour, qui ne dirigeait pas cette année. Mais Antoine, toujours bien intéressant. On se reparle vendredi avec grand plaisir, mon cher.
Bien sûr. Avec grand plaisir. Bonne soirée.
Bonne soirée. Avec Madame Danielle Sauvageau. Bien le bonsoir, Danielle.
Salut Mario, comment vas-tu?
Ça va très bien, content de te retrouver ce soir. Merci pour la belle petite apparition que tu as faite avec Kim vendredi soir dernier. Mais là, je m'ennuyais qu'on ait une bonne jasette de hockey juste entre nous. Je salue Kim d'ailleurs, ça a été vraiment une belle soirée en sa compagnie. Et toi, t'es probablement de toutes nos analystes, là, celle qui fouille le plus dans les stats avancées. Raconte ce que t'as trouvé, puis j'aime ça parce que ça m'ouvre à ça. Je peux pas te dire que je suis bien dans les stats avancées. Qu'est-ce que tu as découvert à travers, je savais pas qu'il y avait eu autant de combinaisons de trios essayées par Martin Saint-Louis, mais qu'est-ce que tu as découvert en fouillant là-dedans?
Mais en fait, j'ai regardé le nombre de combinaisons de trios que le Canadien avait utilisées. C'est sûr qu'il y en a qui me diront, oui, mais il y a eu des blessés, tout ça. C'est sûr. On est à 50 combinaisons cette année. Mais en fouillant dans ça, ce que je voulais voir, c'est que, tu sais, au cours des dernières années, on dit souvent que la philosophie des entraîneurs, c'est d'abord et avant tout d'aller chercher des duos. Que ce soit là, à Pittsburgh, on en a des, tu sais, avec Crosby, Malkin, on a des duos qui sont, au cours des années, on les connaît, il y a toujours un troisième joueur qui va arriver. Mais ce que j'ai remarqué en faisant le tour de l'ensemble des équipes dans la Ligue nationale, c'est qu'il y en a très peu des trios qui ont joué au-dessus de 600 minutes, qui représentent à peu près une trentaine de matchs. Et le Canadien en compte un. Sans surprise, Caulfield, Suzuki et Slavkovski. Et ensuite, le trio ou les trois joueurs qui ont joué le plus régulièrement ensemble, ben, il faut que tu divises en deux, c'est-à-dire 179 minutes, et c'est Gallagher, Anderson et Evans. Et avec Anderson sur ce trio-là, tout le monde va comprendre que c'est pas nécessairement un trio qui offensivement a offert des éclats cette année. Et quand on regarde ailleurs, il y en a combien d'équipes qui ont un trio qui joue au-dessus de 600 minutes? On y retrouve là, Winnipeg, Nashville et Dallas. Alors, c'est pas beaucoup d'équipes. Alors moi, je considère que le Canadien a un privilège d'avoir trouvé trois joueurs qui jouent bien ensemble, et ça depuis le décembre, parce que Slavkovski a été réuni à Caulfield. Oui. Caulfield, on se rappelle, hein, jouait même pas avec Suzuki jusqu'en décembre. Et c'est vraiment à partir là, du 4 décembre que Slavkovski, notamment, a commencé à jouer des minutes. Là. Il est passé de 13 minutes là, à une moyenne de 13.
Sa deuxième visite avec Nick Suzuki, dans le fond, c'était le deuxième essai de la saison. Au début de l'année, ça avait été peu concluant. Mais là, après ça, comme je disais hier, le Boeing a décollé. Là.
Décollé, mais en même temps avec Caulfield, parce qu'on avait séparé aussi de Caulfield. Alors, quand on regarde, là, il y a juste Dallas, vraiment, et Winnipeg, là, qui ont deux et trois trios, là, qu'on va retrouver ensemble. Alors, ça, ce que ça dit, c'est que le Canadien s'est retrouvé avec un trio qui va juste continuer. La moyenne d'âge, c'est 22 ans. Ça va être extraordinaire de les continuer, mais de les voir évoluer. Mais maintenant, le défi, ça va être de trouver, justement, surtout un deuxième centre qui va être capable de vraiment jouer contre les meilleurs centres adverses. Et c'est ce qui manque aux Canadiens. Mais encore là, très peu d'équipes ont deux et trois trios réguliers qui sont capables de performer. J'en compte que quatre. Alors, je pense que si on veut trouver des points positifs aux Canadiens cette année, ben c'est de faire partie là, des quelques équipes sur 32. Là, on peut peut-être compter 5 équipes sur 32 qui ont vraiment un premier trio avec beaucoup de minutes, c'est-à-dire 600 minutes et plus. Et c'est à peu près là, 30 à 32 matchs. Là, pour ceux qui se demanderaient, ça représente quoi? 600 minutes là, si on prend une moyenne de 18 à 19 minutes par match.
Mais c'est peu, dans le fond, quand tu regardes ça, ça veut dire que peu d'équipes réussissent à avoir de la stabilité sur leur trio à cause des blessures et d'un paquet d'autres raisons, grosso modo, Daniel?
Raison, blessure, cohésion surtout. C'est facile de trouver des duos, mais de trouver vraiment trois joueurs qui jouent bien ensemble. Je regarde sur l'équipe nationale féminine, c'est très difficile de trouver, on voit Jenner avec Poulin, Poulin avec Jenner, mais de trouver justement cette troisième joueuse qui va bien venir lire la cohésion, de bien sentir les deux autres, c'est extrêmement difficile. Et à ma grande surprise, je me suis aperçu qu'on prend un trio pour acquis. Des duos, oui, mais des trios, on en trouve peu.
J'adore la porte que tu nous ouvres avec cette discussion-là, parce que les duos, justement, c'est ancré fort dans la tête des partisans. Puis c'est comme si ils sont... Les gens ont de la misère, puis je blâme pas personne, je constate seulement que on dirait qu'ils veulent en rester un duo. Puis là, oh, mais là, Caulfield, là, il est plus là. C'est comme il est moins là, il va jouer lui avec Doc. Ou tu sais, comme on veut séparer le trio déjà. On a déjà comme on voudrait brasser le boulier, là, hein? T'es conscient de ce discours-là. Et je sais pas comment t'entrevois la suite des choses avec le retour de Doc. Tu crois-tu que ça va être tentant de jouer? Puis j'espère qu'Kent Hughes va ajouter du talent puis donner plus de cartouches à utiliser pour Martin Saint-Louis. Mais entrevois-tu, souhaiterais-tu une stabilité avec ces trois gars-là? Maintenant que tu as trouvé cette unité-là, est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est quasi immuable?
Oui, c'est tentant d'aller en duo parce qu'on va aller chercher des profondeurs, puis on peut dire ben on va pas tout mettre sur le premier trio. Mais lorsque tu regardes le privilège qu'une équipe peut avoir, puis qui en compte pas beaucoup dans la Ligue nationale, ben moi je serais porté à dire ben continuons à capitaliser sur ces trois-là. Imaginons si on joue peut-être des fois à un moment donné, tu as besoin un petit peu de changement, mais d'aller chercher une trentaine. Et même un peu plus de matchs avec le même trio, moi je pense que ça représente un avantage qui est de marque pour le Canadien de Montréal.
Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu penses qu'on va être tenté de faire l'an prochain? Comment tu vois ça? Toi, tu penses-tu qu'on commence l'année puis on se casse pas le boulot, c'est Suzuki, Caulfield puis Slavkovski ou on va vouloir donner un anan à Doc?
Non, moi je pense qu'on part avec ce trio-là. Et puis d'ici à la prochaine saison, Mario, tu sais qu'il va se passer bien des choses.
Oui.
Il y a des cartes dans le jeu de Ken Hughes. En choix de repêchage, est-ce qu'on va être tenté d'aller chercher des gens qui vont être disponibles? Est-ce que les autres équipes vont vouloir justement aller chercher des choix de repêchage avec des joueurs qui pourraient laisser aller des joueurs qui, encore une fois, là, ne doivent pas dépasser l'âge de 25, 26 maximum pour pouvoir grandir avec le cœur de cette équipe-là. Alors pour moi, je commencerai avec ce trio-là. Ils aiment jouer ensemble. Il y en a d'autres hein, qui ont été quand même... puis c'est intéressant parce que à partir du moment où Slavkovski a commencé à bien jouer, il a aussi bien joué justement avec Caulfield et Dvorak. Là, on sait que Dvorak est revenu. On sait qu'il y a une certaine affinité aussi avec Caulfield. Mais encore une fois, restons avec un trio et bâtissons autour de Dak pour aller chercher davantage de profondeur. Et cette profondeur-là va venir. D'ailleurs, moi, Jake Evans, cette année, pour moi, c'est ma carte cachée.
Ah oui?
C'est un gars que lorsqu'on regarde jouer, lorsqu'on regarde les métriques, là, les statistiques avancées, c'est quelqu'un qui va aller chercher plus de 50% des mises en jeu dans le territoire défensif. C'est lui qui va prendre aussi les premières mise en jeu dans le territoire lorsque le Canadien se retrouve à 4. On l'a vu à plusieurs reprises là, jouer sa séquence, jouer son chiffre, et il y a un désavantage numérique qui se présente. On le retourne au jeu contre les premières unités d'avantage numérique des adversaires. Alors ça, pour moi, c'est un troisième. Cependant, c'est vraiment un joueur de troisième trio. Mais pourquoi c'est une carte cachée? C'est qu'il est capable de jouer deuxième. Il pourrait bien se faire aussi sur quatrième. Et devenait compléter, c'est le meilleur joueur défensif du Canadien.
Oh, wow, OK. Et c'est vraiment intéressant ton analyse. Puis, mais on le voit à l'œil nu, j'avais pas les stats à l'appui. Il s'est rendu utile, puis il a pu obtenir des promotions, puis remplacer de longues absences qu'on a eues. Mais effectivement, dans bonne chaise, il s'est établi comme un véritable joueur de la LNH, lui qui a eu tellement de blessures à tout bout de champ. Tu te souviens de la violente collision avec Scheifele. Daniel, je te pose la question qui est qui est pas mal la thématique ce soir. Je l'ai posé à Olivier Renard parce que c'est tout sport confondu. Si t'avais un poster au centre 21-02 de l'entraîneur idéal, là, le mentor, celui à qui incarne pour toi, tout sport confondu, l'entraîneur idéal en 2024?
Les noms, j'aurais de la difficulté parce que, encore une fois, le profil pour moi, c'est d'être curieux. C'est de continuer à vouloir, tu sais, quand on parle d'apprentissage continu, là, il faut vraiment être à l'affût. Au niveau générationnel, au niveau d'avoir une bonne gestion, quand on parle d'une bonne gestion de soi, là, puis d'être résilient, parce que c'est facile de perdre patience. Oui, il faut continuer à être demandé, d'être direct, de donner du feedback. Lors de donner du feedback individualisé, les jeunes d'aujourd'hui, on parle d'athlètes, mais on parle de notre staff. On parle aussi d'un staff qui, dans bien des cas, quand on parle de s'adapter là, au profil technologique, on a besoin de la technologie. Mais je peux te dire que ton coach vidéo, il est bien différent, par exemple, que ton personnel médical. Alors, d'être capable de bien lire les émotions, de bien s'adapter à l'ensemble des profils pour créer un environnement sain et sécuritaire pour tes athlètes pour qu'ils puissent continuer à grandir dans ça, que tout le monde trouve son compte, ben, je pense que ça prend quelqu'un qui est calme, qui s'élève au-dessus de la mêlée, qui place les bonnes personnes au bon moment, qui est capable de construire un staff qui va répondre aux besoins. C'est quelque chose d'être entraîneur-chef, mais Martin, c'est lui qui travaille pas tout seul à Montréal. Donc, de vraiment d'être accompagné puis de choisir le staff qui va travailler plus directement avec les athlètes comme un chef d'orchestre, par exemple, ça, c'est l'art numéro un d'un entraîneur-chef.
Une petite dernière, Slavkovski est en train de devenir pour moi un joueur de franchise, puis j'espère qu'il va être à Montréal très longtemps. Il a tellement une belle personnalité en plus d'un talent dont on connaît pas encore le plafond, et le plafond est pas à l'horizon. Mais je regardais, c'est drôle, c'est juste de l'analyse de langage corporel, mais hier après qu'il ait savouré là, sa première étoile, puis il entre dans le vestiaire, il y a un comité d'accueil, Kevin le relié sur le compte du 98.5 Sport sur Twitter, puis là tu vois dans le vestiaire l'accueil, puis c'est normal, je pense qu'on est même avec tous les coéquipiers, mais je regarde le regard de Martin Saint-Louis envers le kid, puis bon, Martin a de l'enthousiasme envers tous ses joueurs, mais je sais pas comment te dire ça, mais ça sent que c'est un gars qui a une présence, puis qui commande c'est même pas du respect encore à cet âge-là, j'ai même du mal à trouver les bons mots, puis je sais pas ce que tu vois, mais tu vois qu'il fait... Il y a même de l'enthousiasme. Tu sais, je pense que c'est ce qui est le plus près de refléter ma pensée. Tu vois que son éclosion puis le fait qu'il grandit à vitesse grand V, là, ça amène de l'enthousiasme même chez les coachs. Ça se peut-tu? Je pense que oui, là, mais j'aimerais ça t'entendre.
Définitivement, parce que quand on parle de feedback individualisé, la façon qu'il parle à Slavkovski, c'est certainement pas de la même façon qu'il va parler à un Josh Anderson, par exemple. Josh Anderson, malgré une année, sa pire année dans la Ligue nationale, continue de dire « je vais continuer à travailler parce que je vais m'en sortir ». Rappelle-toi, à un moment donné, il avait compté un but dans une des pratiques, puis tout le monde avait applaudi parce qu'il disait « ben, ça commence comme des pratiques, puis tu vas finir par m'avoir un dans un match ». Et ça, c'est du Martin Saint-Louis. C'est d'aller individualiser, donc tu vas parler différemment, tu vas bâtir la compétence. Tu sais, on parle beaucoup de confiance, mais pas une confiance dans lui, il faut que tu te sentes bon. Et Slavkovski, il
se sent bon. Et qu'on te fasse sentir bon aussi, tu sais, pour les bonnes raisons. Ça prend de l'input, des petites tapes dans le dos aussi, là, je pense, des fois, hein?
Oui, ça prend des tapes dans le dos, mais tu sais, si je te disais à tous les soirs, Mario, t'es bon, tu me disais, ouais, mais Daniel, je suis bon dans quoi? C'est quoi mes forces?
T'as raison.
Et c'est ça qu'on a besoin de savoir. Quand je parle de feedback individualisé, c'est ça que ça veut dire. Slavkovski d'utiliser, tout le monde est gros, t'es grand, utilise-moi, mais comment je vais l'utiliser, mon corps? Mais qu'il a pris confiance parce qu'il arrive à faire des choses, de dire, wow, ça, je le faisais pas, là, un an. Je le voyais, tu sais, d'être capable de déjouer. Il est capable de faire plein de choses qu'il n'était pas capable de faire il y a un an. Mais il est capable de concrètement dire quoi. Et c'est ça de bâtir la confiance de quelqu'un. C'est de lui dire, voici où tu es bon. Et on va venir masteriser. C'est-à-dire qu'on va bâtir. Tu vas être encore meilleur dans ce que tu es déjà bon. Et le reste va venir.
Ben, c'est très bon. Excellent encore, Daniel, ce soir. Je te dis à très bientôt. Et une excellente fin de soirée. Mais je ne quitte pas sans dire à tout le monde et à toi que les cantonniers de Magog viennent de remporter le championnat des éliminatoires des séries M18 de la Ligue de Midget 3A en prolongation contre les Estacades de Trois-Rivières. Bravo à toutes les équipes. Et bravo, cantonniers, bien sûr. Merci, Daniel.
Merci, à bientôt.
Bye bye.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Touché!
Pour les fidèles du sport.
Êtes-vous prêt pour le premier match local du CF Montréal en fin de semaine contre Cincinnati? On s'attend à une salle comble. On espère que la météo va collaborer. C'est un plaisir pour nous de le recevoir en studio après la première séquence de match que le club a disputé sur la route. Celui qui est maintenant, après avoir été directeur technique pendant quelques années, toujours dans les mêmes fonctions, mais avec un titre différent, vice-président, chef de la direction sportive d'une autre qu'Olivier Renard. Bien le bonsoir, Olivier. Bienvenue en studio.
Merci beaucoup. Bonsoir.
Olivier, quelle évaluation fais-tu de la première tranche que calendrier que ton club a disputé sur la route? Le verre à moitié plein, à moitié vide, comment vois-tu ça? Deux victoires sur six possibilités.
Non, mais c'est à moitié plein, je crois que c'était, il y a eu des choses très positives, évidemment le dernier match a été quelque chose de négatif pour plusieurs raisons, même la carte rouge qui n'a pas aidé, mais je vais pas dire que ça peut arriver, mais quand même dans le sport c'est comme ça. Il faut bien se rendre compte que pour l'équipe ça n'a jamais été évident depuis l'histoire du stade olympique, qu'on a appris quelques semaines seulement avant qu'on pouvait pas s'entraîner, donc on a dû changer nos plans du camp d'entraînement. On a dû partir à partir du 15 janvier en Arizona, donc il faut bien s'imaginer que pour les joueurs c'est presque 2 mois et demi sur la route, c'est jamais évident. Pour les nouveaux joueurs qui arrivent ici avec les familles, pour trouver la maison, pour trouver les comptes de banque et tout ça, c'est toutes des choses que tu dois régler en tant que dans ma position, et heureusement j'ai l'aide de plusieurs personnes qui font très bien ça pour entourer les joueurs. Mais tout ça, c'est ce que les gens parfois oublient. c'est pas seulement courir derrière un ballon, il y a plein de choses à régler, et c'est vrai que le fait de revenir maintenant chez nous avec une salle comble pour les prochains matchs, c'est important de voir que le public nous suit. C'est vrai que les 6 premiers matchs sur la route, c'est jamais un cadeau, mais pour finir, on a quand même pris un certain nombre de points. On aurait pu en avoir plus, notamment le match à Chicago qui reste à travers la gorge à tout le monde. Mais voilà, il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses, et maintenant on est impatient de faire des bonnes choses chez nous avec notre public.
Et vous êtes obligé de composer avec cette situation-là, de commencer vos saisons sur la route. Y a-t-il moyen, puis ben, c'est peut-être de la pensée positive un peu, mais de tourner ça en une espèce d'avantage? Est-ce qu'il y a moyen de capitaliser sur cette contrainte majeure-là?
Ben, l'avantage premier, c'est qu'on sait que c'est comme ça. Donc c'est pas, à part cette fois-ci, c'est un petit peu différent avec le stade olympique, mais en général, tu sais que tu fais peut-être sur les 6 premiers matchs, 5 sur la route et 1 au stade olympique, donc tu sais que tu dois t'armer au niveau mental et armer tes joueurs du premier mois comme cela. Après, oui, tu joues 6 matchs là maintenant sur la route, mais plus tard, tu vas jouer plus de matchs à domicile aussi, donc plus tu vas t'approcher de la fin de saison, et toi, tu auras la chance de jouer plus de matchs chez toi, donc l'un dans l'autre, je crois que ça s'équivaut, mais c'est surtout au niveau mental. C'est pas forcément le match sur la route qui pour moi fait la différence, c'est surtout expliquer aux gens que quand t'es 2 mois et demi loin de la maison, pour d'autres problèmes, les problèmes familiaux à régler, ça c'est un petit peu plus compliqué à pouvoir pousser les joueurs à aller à fond.
Parce qu'il n'y a pas de garantie non plus de victoire assurée quand on joue à domicile. D'ailleurs, est-ce que c'est un aspect où t'aimerais voir l'équipe avoir plus de constance à domicile cette année?
Ben, l'année dernière, on avait fait des très bons résultats à domicile, oui. Heureusement, parce qu'on était complètement catastrophique sur la route. L'année dernière, et c'est là que tu vois que l'apport de notre public fait beaucoup, et c'est ce que j'espère déjà samedi ici contre Cincinnati. Cincinnati qui a une grosse équipe dans l'Est, même la plupart des équipes dans l'Est sont renforcées fortement, ils ont dépensé beaucoup d'argent, mais c'est clair que nous, on attend ça, même quand on a fait la semaine dernière la soirée avec nos fans, on a vu l'engouement de tous nos supporters dans la salle, et c'est sûr que pour les joueurs, ça va être important de démarrer du bon pied devant nos supporters.
As-tu l'impression, depuis ton arrivée à Montréal, Olivier, qu'on est entré dans une espèce dans une espèce d'accalmie dans la relation entre les partisans? Puis je dis pas tous les partisans, il y avait des groupes de partisans où il y avait plus de turbulences. Dans l'ensemble, on dirait que la perception est beaucoup plus positive, malgré les contraintes budgétaires et toutes sortes d'autres contraintes, dont celle qu'on vient d'évoquer, le calendrier à l'extérieur. Mais sens-tu que vous entrez dans une zone là intéressante où le club va pouvoir s'épanouir davantage?
Ben, évidemment, moi je suis arrivé avec Thierry Henry en 2020. Quelques semaines après, il y avait le COVID. Donc, je me sens que depuis 2022, on est vraiment le club de soccer de la ville avec les publics derrière nous. Cette année-ci, c'est vrai qu'on a fait des grosses ventes au niveau des abonnements. Mais je veux rappeler quand même que la saison dernière, il y avait aussi beaucoup de personnes qui venaient nous suivre au stade Saputo, et qui avaient presque, je sais pas si 6 ou 7 salles comptes, mais même quand c'était pas salles comptes, c'était 18 500. Donc c'était presque full. Donc les gens sont là depuis, je veux dire depuis 2 années, on sent qu'il y a l'engouement et ils comprennent le projet du club. Il y a beaucoup de Québécois sur le terrain, il y a beaucoup de Canadiens. On était très fiers d'avoir 6 joueurs de chez nous qui ont participé à la Coupe du Monde avec le Canada. Donc c'est tout des projets des jeunes d'académie sur le terrain. C'est ça que les gens de Montréalais, je pense, se retrouvent aussi dans l'effectif actuel.
Qu'est-ce que tu penses de la réponse de tes joueurs à la présence d'un nouvel entraîneur, soit Laurent Courtois? Comment tu trouves que la chimie s'installe entre le groupe et l'entraîneur et son personnel?
Mais il y a 2 choses. C'est vrai qu'on voit des interviews, tout le monde lance des fleurs à l'entraîneur, parce que quand tu as une interview, tu peux pas toujours dire la vérité. Mais c'est sûr que moi, en interne, je vois qu'il y a une belle connexion. Ça se voit sur le terrain aussi, à part les deux derniers matchs là. Mais tu vois que le projet sportif qui a été prévu avance avec les jeunes joueurs. Les jeunes joueurs vont s'améliorer, et c'est ce qu'on demande à l'entraîneur aussi. Donc c'est ce qu'on a fait avec Will aussi dans le passé. Et je crois que les fans, ça s'est vu aussi durant la soirée des supporters il y a 10 jours. Les fans voient que notre entraîneur il est pur, il est clair dans ce qu'il veut faire comme message, il est honnête avec nos supporters, avec nous aussi quand il nous parle, et avec les joueurs aussi. Je crois que la sincérité et être le plus clair possible dans ce qu'on veut dans le sport, c'est important d'expliquer ça à ses joueurs.
Quel est le principal degré de difficulté pour toi, Olivier, pour monter la meilleure équipe possible sur le terrain?
Ben c'est un peu moi je considère le football de ma job là de plus comme un puzzle. Tu dois être capable d'essayer de former, évidemment il y a le salary cap qui rend les chiffres, les salaires, mais après au niveau des qualités et les défauts de certains joueurs, tu dois avoir des joueurs qui sont compatibles sur le terrain en fonction de qu'est-ce que tu veux voir comme style de jeu. Donc on essaie de faire un recrutement en accord avec l'entraîneur par rapport à les besoins qu'il a besoin de sur le terrain, dans le style du joueur. Tu peux avoir certains joueurs pour la même position mais qui sont complètement différents. Et c'est pour ça qu'il faut être en osmose avec avec le recrutement. Et évidemment, je répète encore, c'est tout un aspect financier aussi de savoir si on peut se permettre ce joueur-ci ou ce joueur-là. Mais c'est important de voir la confiance du joueur, de venir chez nous, de se mettre en évidence, de faire des résultats, parce que beaucoup de personnes parlent de vente de joueurs, qui est vrai, c'est un des projets du club aussi, mais le premier projet du club est de faire des résultats.
Est-ce que c'est difficile d'attirer des joueurs à Montréal?
Non. Non, après c'est évidemment au niveau de ce que tu leur vends comme projet, et c'est vrai qu'on n'a pas le budget comme certains autres clubs, mais ce qu'on a fait dans les 12, on va dire les 20 derniers mois, ça ouvre les yeux à beaucoup de personnes. Parce que Montréal, moi je veux parler seulement de ma période à moi, quand je suis arrivé en 2020, on m'a demandé d'avoir une équipe beaucoup plus jeune. Donc on a maintenant la troisième ou la quatrième équipe plus jeune de la MLS. Avant 2020, c'était beaucoup de joueurs, sans aucune critique par rapport à qui travaillait avant, mais c'est la réalité, c'était beaucoup de joueurs de 30 ans, 32 ans, 34 ans. Et là maintenant, on est complètement dans un schéma complètement différent, avec beaucoup de joueurs de l'académie. Et les gens qui ont vu Georgi Mihajlovic, ce qui s'est passé avec lui, avec Alistair Johnson, avec Kone, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont ce rêve européen, qui considèrent Montréal comme une belle plateforme pour venir.
Un tremplin,
exactement. Mais après, il y a des joueurs qui ne veulent peut-être pas partir, qui se plaisent bien dans la ville et qui sont contents de rester ici. Mais après, il y a des joueurs aussi qui ont, au coin de leur tête, l'idée de jouer plus haut, dans une compétition plus haute. Et je le dis souvent, le soccer est un des seuls sports, de ce côté-ci du monde où les gens veulent partir vers l'Europe, parce que quand tu joues au basket en Europe, tu veux faire la NBA, et quand tu veux faire du hockey sur glace, ton rêve c'est de jouer ici dans la Ligue majeure. Quand tu fais du baseball, c'est de venir ici aussi. Le soccer, c'est le contraire. Les gens veulent partir en Europe. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, que pour nous, c'est difficile de garder un joueur qui a de l'intérêt d'un club, d'un grand club européen, d'une grande compétition où il peut gagner beaucoup plus d'argent. Tu peux pas l'obliger à rester ici.
Non, tu peux pas le retenir, tu ne peux pas l'attacher. En même temps, quand tu parles de ceux qui peut-être se plaisent plus que ce qu'ils auraient anticipé, je sais pas si tu as des exemples quand tu parles de situations comme celle-là, de joueurs qui peut-être auraient l'occasion de retourner dans des grands clubs, mais par contre, peut-être pas toujours dans un rôle comme celui qu'ils ont le privilège de jouer à Montréal. Bon, il y a sûrement des différences au niveau de la rémunération, mais est-ce que tu as des noms en tête quand tu penses à ça, des gars qui vraiment se plaisent ici ou qui se sont plu ici?
Non, moi je vais peut-être prendre un que moi j'ai connu personnellement ici, Mihajlovic. Georgi, quand il est venu, c'était vraiment le joueur que même à Chicago, il voulait déjà partir vers l'Europe, on le savait. On lui a proposé le projet de Montréal, de venir se mettre en évidence, de jouer dans sa véritable position qui était numéro 10. À Chicago, il jouait sur les côtés. Donc moi, je l'avais identifié comme notre meilleur profil pour jouer comme à sa vraie place. Il est venu, il s'est mis en évidence, il a été vendu en Europe, ce qu'il voulait faire. Et pour finir, il a voulu revenir en MLS. Donc il a été là-bas, à AZ Alkmaar, que je connais très bien le club, c'est pas très loin de chez moi. Pour différentes raisons, il ne s'est pas trop plu. Et pour finir, il veut revenir en MLS. Donc, parfois, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Mais ça s'est vu. Il a fait un petit peu plus qu'un an et il revient en MLS. Donc, ça peut être aussi ça. Et puis, la ligue ne fait que progresser. Le salary cap va ne faire qu'augmenter. Ce qui va aider aussi les directeurs sportifs comme moi à pouvoir avoir plus de budget, parce qu'il n'y a rien à faire. Ça tourne quand même autour de l'argent et des salaires que tu peux donner à certains joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Par rapport à ta question, est-ce que c'est facile de faire signer des joueurs à Montréal? Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent venir à Montréal. Après, évidemment, quand on parle de salaire, si le salary cap augmente, ça va faciliter les choses pour faire venir certains joueurs. Mais la MLS et les États-Unis et le Canada, ça attire beaucoup de gens, oui.
La présence de Lionel Messi en MLS est encore toute jeune, toute récente. Considères-tu qu'il a déjà changé la MLS?
Bah, bien sûr. Niveau médiatique, niveau qualité, c'est sûr et certain que quand tu as le joueur qui était phare, parce qu'il vient en plus de gagner la Coupe du Monde, malgré son âge, c'est un joueur qui fait la différence à tous les matchs. Si t'as un joueur comme ça qui vient dans la Ligue, c'est que beaucoup de joueurs vont vouloir le suivre et venir pour l'affronter ou jouer avec lui.
De tous tes liens que tu as avec les gens que tu as connus dans ta carrière à l'extérieur, en Europe, en Belgique, en France, en Italie, est-ce que tu sens que la perception de la MLS, je pense que je t'avais posé cette question-là à notre premier entretien quand tu es arrivé, mais quelques années plus tard, un Messi plus tard, est-ce que le dialogue change, la perception change positivement?
Bien sûr, et puis même la Ligue change, il y a des règles qui changent, donc on peut maintenant plus dépenser sur les joueurs. Après, évidemment, c'est tout à la discrétion des propriétaires, s'ils veulent bien dépenser plus ou rester avec les mêmes budgets. Mais on voit actuellement encore, là, ils sont encore en discussion pour pouvoir changer les règles, pour pouvoir attirer de plus en plus de jeunes talents, que ce soit sud-américains ou n'importe quoi, comme âge, on va dire, pour que la Ligue s'améliore, non pas seulement avec les anciennes vedettes comme Zlatan, comme Messi maintenant, mais aussi surtout d'aller chercher des jeunes joueurs qui peuvent après partir vers l'Europe éventuellement, ou peut-être rester ici, parce que je dis, quand le salary cap va vraiment augmenter, si ça augmente un jour, je parle au niveau quand même une grosse différence, les joueurs ne vont peut-être plus partir, parce que c'est ça aussi, la Ligue 1, si tu vas garder les joueurs, les meilleurs joueurs, si tu arrives à les payer.
C'est quoi l'écart entre les grandes ligues, là, au niveau du salaire moyen? Est-ce que c'est astronomique? Parce que c'est pas les mêmes conventions là-bas qui régissent la pratique du sport. Fait que tu me disais avant qu'on entre en studio que il y a des bas salariés également dans les grandes ligues. Alors, tu crois-tu qu'on est loin de ce moment-là où, même au niveau salarial, un joueur va dire, oh, je suis bien ici, je suis bien en Amérique?
Non, mais la plus grosse différence, en Europe, si ton propriétaire veut dépenser 5 fois plus en une saison, il va le faire. Si je dois dire vraiment la plus grosse différence qui fonctionne, moi, par exemple, avec la masse salariale que j'ai ici, c'est plus ou moins celle que j'avais au Standard de Liège aussi. La grosse différence, elle est que, en Europe, tu peux répartir, vu qu'il n'y a pas de salary cap, tu peux répartir l'argent d'une façon homogène sur tous les joueurs. Ici, tu vas atteindre le même chiffre de masse salariale parce que tu as peut-être 3 joueurs qui sont payés beaucoup plus que les autres. Et c'est là que, pour moi, tu vois la différence sur la qualité du terrain, parce que t'as 11 joueurs sur le terrain, si t'as 3 joueurs que tu payes beaucoup plus cher et les autres sont payés presque salaire minimum, tu auras moins de qualité que si tout le monde est payé plus ou moins au même salaire, plus élevé. Je sais pas si tu comprends
ce
que
je veux
dire.
Oui, je te suis.
La moyenne du salaire.
C'est ta philosophie. Est-ce que c'est ça que tu appliques le plus possible avec ton budget ici à Montréal, Olivier?
Je crois qu'on le remarque, là. On le remarque que je sais que, évidemment, tous les transferts ne sont pas des réussites. Évidemment, il y a certains joueurs que j'aimerais bien trouver des solutions pour économiser, pour pouvoir aller chercher un autre joueur. Mais dans la vie, tu fais pas toujours 10 sur 10 dans les transferts. Mais oui, c'est un peu on l'a bien vu aussi en 2022. On essaie de refaire maintenant. Je crois que qualité-prix, on a une très bonne équipe. Et en 2022, c'était la même chose qu'on a investi sur les Sir Johnson, sur Jordi Mihailovic. C'est pas des joueurs qui gagnaient des millions dans la ligue, mais c'était des joueurs importants dans la ligue au niveau de la qualité, et on parle pas de salaire, là on parle de qualité du joueur, et c'est ce que j'essaie de faire aussi avec Vassili. On essaie de trouver la meilleure façon d'avoir une équipe compétitive, mais pas seulement avec 11 joueurs, d'avoir 25 joueurs capables de jouer.
On est avec Olivier Renard, le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal. On s'arrête le temps de quelques messages et on est de retour immédiatement pour la suite.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Touché! Pour les fidèles du sport.
Nous sommes de retour avec notre invité, Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal. On parlait de Messi tout à l'heure, Olivier. J'étais bien content quand vous avez raison de son équipe, évidemment, lors de votre voyage, de votre match contre eux en Floride. Crois-tu que la défaite qu'ils ont subie, puis le tollé que ça a provoqué chez les partisans de l'équipe contre Montréal, sera un incitatif à ce qu'on le fasse jouer quand il viendra à Montréal? C'est la grande question partout où Miami va. Est-ce qu'il va jouer? Peux-tu spéculer sur les chances qu'il joue contre Montréal et qu'il vienne à Montréal?
Mais évidemment, j'ai vu il y a plusieurs matchs où il n'a pas joué. Je crois que la chose la plus importante que les gens doivent comprendre, c'est que s'il ne joue pas, c'est qu'il est peut-être blessé. Et ça arrive. C'est pas parce que t'es Messi que tu vas jamais te blesser. Donc, je crois que c'est un grand champion. Les grands champions comme lui, comme Cristiano Ronaldo, c'est des joueurs qui ne calculent pas trop de se reposer. Ils veulent gagner chaque match. Donc, s'il n'est pas blessé, je crois qu'il jouera contre nous. Après, s'il est blessé, c'est la vie, ça arrive. Mais nous, comme équipe, évidemment, on a gagné à Miami. Il n'était pas sur le terrain, ça nous a aidé certainement. C'était la première défaite, je pense, de Miami aussi, après un certain temps. Donc, ça a fait mal à eux. Maintenant, nous, on ne doit pas calculer de parce qu'on joue contre Messi. C'est comme ça, c'est une ligue avec des grands champions. Il y a des autres équipes qui ont des joueurs importants. Quand nous, on a nos joueurs importants qui sont blessés, ben, ça fait plaisir à l'adversaire de ne pas affronter certains joueurs. Je vais pas dire que je souhaite que Messi se blesse, pas du tout, parce que je peux pas me permettre de dire ça. Mais après, nous, on va jouer contre qui sera en face de nous, et c'est tout.
As-tu été surpris de l'intérêt généralisé pour faire l'acquisition d'Olivier Giroud après la Coupe du Monde, où il a été quand même tout un joueur, alors qu'il y avait peu d'intérêt avant la dernière présentation de la Coupe du Monde pour Giroud? Puis est-ce que le CF s'est intéressé à cette possibilité-là?
Bon, c'est une bonne question, mais moi, les rumeurs, je peux pas commenter. Après, c'est sûr que Olivier Giroud, pour moi, ça fait des années que ça reste un joueur qui est capable de marquer des buts. Il l'a prouvé avec l'équipe de France et dans tous les clubs par où il est passé. Je suis pas étonné qu'il y ait des clubs MLS qui sont intéressés à lui. Actuellement, c'est pas un dossier pour nous. On a notre réalité. Et on peut pas aller sur Olivier Giroud pour l'instant, non.
Est-ce que tu le vis comme une contrainte, comme un irritant majeur ou comme un défi ta réalité budgétaire?
Non, moi je me suis jamais plaint de, c'est ça qu'il faut faire très attention. Nous on fait vraiment le maximum. Je pense que c'est important de, il y a des équipes qui dépensent énormément d'argent en plus que nous. On a la chance, Vassili et moi, de voir les chiffres de toutes les dépenses. Il faut savoir que les gens voient le salary cap. Les chiffres qui sortent avec les salaires, c'est une chose. Après, il y a le out of pocket, tout ce qui est payé à côté. Donc, les salaires des joueurs désignés, les salaires des U22, les transferts des U22. Et nous, on voit la grosse différence qu'il y a avec certaines équipes et qui n'ont peut-être pas fait les séries depuis 5-6 ans. Ces équipes-là, donc je peux pas parce que c'est normal, c'est un secret. On peut pas expliquer tout ça. Mais nous, on voit tout ça. Donc, c'est sûr qu'on essaie d'investir le mieux possible, mais on n'est pas frustré. On fait vraiment le mieux possible et l'important, c'est de voir des joueurs qui sont contents de jouer pour le club, des supporters qui sont contents de venir au stade. Et la preuve, c'est de voir l'affluence depuis 2-3 ans au stade. Si on était vraiment catastrophique à tous les matchs, tu n'aurais pas cette affluence. Ça veut dire que les gens qui viennent passent des bons moments chez nous. Et je les remercie d'ailleurs parce que nous, on a besoin de ça. Moi, j'étais joueur et quand t'es sur le terrain et que t'as la foule qui est derrière toi, ça te surpasse à faire des meilleurs résultats. Mais voilà, c'est pour revenir au niveau du budget. Oui, il y a des clubs qui dépensent beaucoup d'argent et qui ont plus d'armes que nous. Ça, c'est clair. Mais après, moi, je pars du principe que quand tu as un esprit de groupe, un coach qui sait être le bon psychologue avec les joueurs et un club qui voit un projet aux gens qui le respectent, tu arrives à soulever des montagnes et c'est vrai que c'est ce qu'on a su faire en 2022 et c'est la preuve que c'est pas une question de... Le salary cap, c'est le même qu'en 2022, plus ou moins. Donc on est à ce niveau-là et on a fait une énorme saison. Pourquoi pas en répéter des comme ça?
Il reste que tu as provoqué beaucoup de bonnes réactions avec tes récentes acquisitions, là, Yankov, Coccaro, Martinez. Je veux dire, c'est quand même, ça a de la gueule comme alignement, malgré tes contraintes budgétaires. Et il y a comme une intrigue, je trouve, autour de l'équipe, en savoir qu'est-ce qu'elle sera capable de faire cette année. Puis je pense que quand on se place dans cette position-là, tu sais, créer des attentes, des fois, t'as peur de décevoir. Alors, c'est peut-être pas inintéressant là, comme poussin. Ça, c'est pourrait-il surprendre? C'est un peu comme ça que je vous regarde depuis quelques saisons, Olivier. Est-ce que vous êtes bien dans cette situation-là d'avoir la possibilité de surprendre?
Mais c'est vrai que quand tu mets la barre trop haute, ce qui s'est peut-être passé la saison dernière, après la superbe année 2022, c'était pas facile pour Hernán Losada non plus. Je sais qu'on a décidé d'arrêter l'aventure avec Hernán Losada, mais c'était pas entièrement de sa faute, loin de là d'ailleurs. C'était pas évident, il y a eu beaucoup de départs, donc la barre était peut-être trop haute, parce que comme on avait été éliminé presque dans le Final Four de la saison 2022, tout le monde se dit « Ok, on va encore faire mieux ». Parfois, c'est mettre la barre trop haute, ça te bloque. Donc, moi, je vois pas les choses comme ça. Je crois qu'on a les chances d'aller très loin dans la saison. On est armé pour faire des bons résultats. Après, évidemment, c'est aux joueurs aussi à faire les prestations qu'ils doivent faire. On a très bien commencé la saison, on est un petit peu moins bien les dernières semaines. J'espère maintenant le fait de rentrer chez nous. Et les joueurs commencent aussi à se connaître de mieux en mieux. Parce que c'est vrai que les noms que tu as cités, ben, c'est des nouveaux joueurs. Il faut quand même si c'est des joueurs de qualité, ils doivent apprendre à jouer ensemble. Il y a rien à faire quand tu es habitué à jouer avec des joueurs depuis plus d'un an. Ça t'aide à connaître les qualités et les défauts de ton coéquipier. Donc plus les semaines vont passer, mieux ils vont se connaître. Mais c'est vrai que, et je répète, qualité-prix, je trouve qu'on a un bon effectif, on a un bon staff, un coach qui communique très bien, qui est un bon entraîneur. Je suis très content de lui, très content de sa venue, et je suis persuadé qu'on va atteindre les objectifs.
Qu'est-ce qui t'emballe le plus par rapport au groupe que vous avez assemblé pour cette saison 2024?
Je pense qu'il y a une grosse profondeur quand s'il y a un ou deux blessés, on n'est pas directement dans la panique, ou même deux, trois blessés, on n'est pas directement dans la panique de qui va remplacer qui. Et puis je vois au quotidien la façon dont ils s'entraînent, au-delà d'une victoire ou d'une défaite, ça n'a rien à voir. Moi, je vois comment ils travaillent tous les jours, je vois l'ambiance dans le vestiaire, je vois le respect mutuel entre le staff et les joueurs. Et ça, c'est des choses qui vont te donner des points, en plus des qualités des joueurs. C'est quand tu arrives à avoir un esprit d'équipe, c'est comme ça que tu arrives à atteindre le niveau que tu veux atteindre.
C'est peut-être plus le défi du coach, mais je suis convaincu que tu l'as pu là-dedans. Est-ce que c'est difficile de garder tout le monde heureux?
C'est impossible. C'est impossible parce que tout le monde veut jouer. Et t'as un groupe, on a presque 30 joueurs. Tu peux en admettre que 11. Après, évidemment, il y a toujours des blessés, des suspendus chaque semaine. Mais après, à partir du moment où, c'est ça que je voulais dire, que je disais tout à l'heure, l'entraîneur qui est honnête et sincère, j'ai connu ça dans ma carrière aussi. Moi, mon meilleur entraîneur, c'est Luciano Spalletti, qui maintenant entraîne l'équipe nationale d'Italie. Je l'ai eu 4 ans à l'Udinese. J'ai joué que des matchs de Coupe d'Italie. J'ai pas joué en Serie A. Et pourtant, à mes yeux, c'était le meilleur entraîneur parce qu'il m'expliquait pourquoi je jouais pas. Et j'étais encore jeune, mais quelqu'un qui est capable de t'expliquer pourquoi et qu'est-ce que tu dois faire pour t'améliorer. Quand t'es joueur, tu dois être capable d'écouter et d'apprendre. Parce que si t'as aucune communication entre ton entraîneur et tes joueurs, c'est là qu'il y a la frustration qui arrive. Un joueur a difficile parfois à comprendre pourquoi il ne joue pas. Mais quand tu as carte sur table, pourquoi, si tu peux montrer maintenant avec les paramètres que nous avons tous les ordinateurs pour savoir les mètres courus, l'intensité, tu sais prouver à un joueur qui ne s'est pas donné à 100% d'entraînement, c'est beaucoup plus facile à un entraîneur d'expliquer pourquoi il ne mérite pas de jouer. C'est quand t'es carte sur table avec les gens, il y a beaucoup moins de couacs.
À travers les réponses aux différentes questions, tu réponds un peu à la question thématique de la tribune téléphonique de ce soir, mais je vais quand même te la lancer. Tu pourras peut-être y ajouter quelque chose parce que en peu de temps, tu as vécu l'expérience de travailler avec différents entraîneurs. Tu parlais de Thierry, Armand Nozada, il y a Wilfried, faut pas que j'oublie maintenant Laurent Courtois. Quel est, selon toi, tout sport confondu, Olivier Renard qui est avec nous en studio, le profil de l'entraîneur idéal en 2024?
Ah, c'est important de dire l'année. Parce que le profil idéal de ma période à moi, c'était vraiment l'entraîneur qui te guide sur le terrain, qui te critique, et ça s'arrêtait presque à ça, parce que souvent, quand j'étais joueur, il y avait une certaine éducation qui se faisait naturellement. La nouvelle génération, là, 2024, comme tu viens de terminer la question, c'est différent. L'entraîneur doit vraiment être un psychologue. Moi, quand je parle avec un entraîneur, c'est le point majeur. Il faut savoir s'exprimer, il faut savoir comprendre un jeune de maintenant. Moi, quand j'ai commencé, et les jeunes, t'avais peur de faire 2-3 passes à l'entraînement parce que t'avais peur d'en rater une. Le jeune de maintenant, il fonctionne pas comme ça, il est insouciant. Il va jouer comme s'il jouait dans la rue avec ses amis.
C'est beau l'insouciance, mais bien canalisé.
Ça, c'est une grosse qualité. Après, tu as la gestion émotionnelle de ce joueur insouciant qui, quand il est sur le banc, pète un câble directement. Avant, tu acceptais d'être sur le banc parce que t'avais un joueur ancien qui jouait et tu disais, ok, j'ai déjà joué 2 matchs, je suis déjà content avec les 2 matchs que j'ai joué. Le jeune de maintenant insouciant va un peu moins respecter cette règle-là. Donc tu as une gestion émotionnelle, et c'est pour ça que je dis que tu dois être psychologue, de pouvoir expliquer aux joueurs, le jeune joueur, d'être patient, et la patience dans le sport, c'est de moins en moins malheureusement, même avec les supporters, mais c'est pour moi c'est ça, c'est avoir un staff complet. L'entraîneur doit être un bon psychologue, et il doit avoir un staff qui fait les meilleurs entraînements pour faire progresser les jeunes joueurs, notamment dans le projet Montréal.
Ma dernière question, Olivier, parce que je pense que le CF incarne l'espoir pour tout jeune qui joue au foot, qui joue au soccer au Québec, et la preuve, c'est qu'on retrouve, on se reconnaît dans votre équipe. Et c'est une question de flair, dans le fond, là où je t'amène, c'est si on allait voir ensemble des matchs sur la rive sud, la rive nord, peu importe, n'importe où, qu'on voyait des jeunes de 12, 13, 15 ans, 16 ans, qui rêvent d'être recrutés par l'Académie ou qui rêvent un jour de jouer dans le CF, quelle est la première chose ou les premiers éléments que tu observes et qui te donnent envie de dire, oups, ce garçon-là, cette fille-là, il y a quelque chose de spécial?
Ben, moi, mon fils, il joue, j'habite du côté de Laval, il joue aussi à Laval, donc évidemment, je vois beaucoup de jeunes, beaucoup de... Mais à cet âge-là, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de salary cap. C'est vraiment le talent pur et le jeune qui a envie de devenir professionnel. Mais qui ne veut pas devenir professionnel pour gagner des millions. Il veut être professionnel parce qu'il veut ressembler à Sam Piet, il veut ressembler à Mathieu Chouanière, il veut ressembler, si c'est un gardien, à Jonathan Sirois. Et ça m'aide dans le projet de faire venir des jeunes joueurs dans l'académie, parce qu'ils se rendent compte que la porte, elle est ouverte maintenant de pouvoir jouer en MLS grâce au CF Montréal. Dans le passé, il n'y avait pas forcément beaucoup de Montréalais qui pouvaient atteindre. Il y en a eu, bien sûr, je ne veux pas dire que c'est grâce à moi tout ça, mais là maintenant, c'est de plus en plus, il y a beaucoup plus
la
de...
La qualité du bassin...
Oui, puis ça, je vois depuis, c'est ma 5e saison ici, je suis arrivé en octobre 2019, je vois l'engouement par rapport au soccer qui augmente. Évidemment, il y a des sports qui sont supérieurs à nous et on n'est pas en lutte avec les Canadiens de Montréal. Moi, quand je vois les Canadiens de Montréal jouer, j'espère qu'ils gagnent. C'est normal, c'est la même ville. Mais je sens quand même qu'il y a cet engouement, notamment avec la Coupe du Monde qui va arriver aussi. C'est un sport qui est très connu dans le monde entier, mais peut-être le plus connu au monde. Mais ici, à Montréal, un petit peu moins. Mais je vois de semaine en semaine, mois, année après année, il y a cette attraction de CF Montréal, notamment avec l'avenue qu'on a fait très bien il y a 12 mois, un peu plus, pour prouver que on a une ville qui peut être respectée et qui a sa place en MLS.
Olivier Renard, un gros merci de ta visite. Je l'apprécie énormément.
Avec plaisir.
Bonne fin de saison. Bonne saison. Il commence à temps. Fait que bonne suite de saison plutôt. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir. C'était Olivier Renard, le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.